France Inter.
Et bienvenue à tous à la une de ce 13h. Île de Ré, île de Léron, de Noirmoutier ou de Corse, les îles françaises, destination rêvée des Français. C'est un sondage Elab pour la Tribune Dimanche avec le réseau Ici. Comment sont en train d'évoluer nos choix de vacances? Nous en parlerons avec notre invité Jean Viard, le sociologue spécialiste des temps sociaux. La paix civile en Nouvelle-Calédonie est en train de se jouer en ce moment en métropole. Explication à venir. Au Texas, les secours sont toujours à l'œuvre pour retrouver 27 jeunes filles qui manquent toujours à l'appel, disparues dans les inondations. Et puis en fin de journal, nous vous présenterons le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France. Émilien vient de gagner 2 600 000 euros dans les 12 coups de minuit diffusés sur TF1 il y a quelques minutes. Et puis nous serons sur la route du Tour, deuxième étape la plus longue du parcours, arrivée en fin d'après-midi à Boulogne-sur-Mer. Et attention au risque de pluie. Le temps justement, le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, avec de la pluie donc annoncée sur le Nord.
Oui Eric, et qui nous amène un gros changement de temps et une baisse des températures.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
Inter.
Premier week-end de vacances d'été. On verra dans un instant quelles sont les destinations rêvées des Français. Hier, le voyage en voiture a parfois été compliqué. Près de 700 km de bouchons cumulés samedi en France. Des autoroutes coupées hier dans le sud pour cause d'incendie. Eh bien, nous partons à Deauville, en Normandie, car les vacanciers, une fois arrivés, ont profité de la grande plage malgré une météo un peu plus fraîche que les jours précédents. Reportage de Willy Moreau.
20 degrés, un ciel très nuageux, pas mal de vent. La plage est partagée entre ceux qui s'emmitouflent dans leur gilet. C'est le cas de Ferruja, venu de Paris.
Par rapport à la chaleur qu'on a eue il y a 2 jours, ça, on est en décalage en fait.
Et puis ceux, comme son fils, Caïs, qui se baigne dans une eau à 19 degrés.
Tant que vous êtes dedans, bah c'est bien. Genre on se laisse porter par les vagues.
Vous n'allez pas dans l'eau?
C'est un peu froid pour moi, mais bon... Faut pas se plaindre. Ça change, on prend un peu l'air et puis voilà, ça fait beaucoup de bien.
Pas de soleil pour ce premier jour de vacances, mais pas de quoi contrarier Arthur et sa sœur Louise, 4 et 6 ans, très concentrés sur leur tâche à accomplir.
Je suis en train de mettre plein d'eau et aussi je suis en train de construire le château de sable.
Les grands-parents, Alain et Marie-Odile, juste à côté d'eux, couverts, mais le sourire aux lèvres en pensant notamment à la soirée.
À 20h, c'est bien, ils dorment. Et là, c'est ouf, jusqu'à lendemain matin, 7h30.
Profite un petit peu des bonnes spécialités normandes, des fromages, du Livaro, voilà, tout ce qu'on peut trouver en Normandie.
Notamment du soleil et de la chaleur. Si, si, contrairement à hier, il faudra juste patienter quelques jours avec des pointes à 30 degrés prévues le week-end prochain.
Reportage de Willy Moreau. Quelles sont donc les destinations touristiques rêvées des Français l'été? Une enquête Elab répond à cette question pour le journal La Tribune Dimanche et le réseau des radios Ici. En tête de ce classement, de cette centaine de villes, 4 sont sur une île. Île de Ré en tête, Île de Léron deuxième, Ajaccio et Bonifacio ensuite. On en parle avec notre invité. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. Votre dernier livre a pour titre « Quand le tourisme s'éveillera », coécrit avec Linda Lenné aux éditions de l'Aube. Donc, Île de Ré, Île de Léron, il y a aussi Saint-Malo, La Rochelle, Noirmoutier, Annecy. Dans ce top 10, le littoral ouest à la côte, et hormis la Corse, le sud n'est pas représenté. Qu'est-ce que ça raconte désormais de l'évolution du tourisme en France ?
Ben, si vous voulez, en nombre de séjours, la Méditerranée reste en tête en réalité. C'est vrai que ce qui fait rêver, c'est ces destinations de l'Atlantique, elles sont moins chaudes. Et puis, si vous voulez, ils ont développé, c'est plus tardif, hein, le développement du tourisme sur l'Atlantique, autour du thème de l'authenticité, etc. Ils se sont, il faut reconnaître, un peu opposés à la Méditerranée, dans leur discours, etc. Donc, si vous voulez, la Méditerranée, c'est le tourisme du début du siècle et de l'après-guerre, en réalité, hein, avec toute la politique autour de Montpellier, les plages, etc. C'est un peu un espace, disons, qui fait moins rêver. Et puis, ce qui fait rêver, c'est ces stations, vous l'avez dit. Les îles, c'est très important, les îles. Alors, Oléron et Ré, c'est des îles, mais elles ont des ponts. Alors, c'est des îles avec ponts, c'est la moitié des îles, on va dire. Voilà, elles sont reliées. Et la Corse, évidemment. Mais la Corse, vous remarquerez, c'est beaucoup Ajaccio, en fait.
C'est Bonifacio et aussi. Voilà. Je reviens sur le sud. Est-ce que le sud de la France ne serait pas désormais perçu comme trop étouffant, trop bruyant? Les Français, d'ailleurs, en vacances, aspirent à peut-être à plus de quiétude.
Oui, mais c'est vrai, c'est toujours pareil. Entre les pratiques des gens qui vont massivement en Méditerranée et le rêve qu'ils en ont, c'est comme les gens rêvent massivement d'aller à l'hôtel. La plupart d'entre nous n'allons pas en vacances à l'hôtel, c'est hors de prix, donc on va massivement dans des campings, dans des résidences secondaires, dans des logements qu'on loue. Donc, disons que l'imaginaire est sur l'Atlantique, vous avez raison, les pratiques sociales, c'est plus égal, voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a le bruit, c'est vrai qu'il y a la chaleur, qui sont des éléments qui comptent. Moi, je pense que la face à l'Atlantique, regardez, la Bretagne, par exemple, n'est pas... Non, il y a Saint-Malo, mais Saint-Malo, bon, c'est juste la limite, là. Mais là, on pourrait dire la Bretagne, Quimper, toutes ces destinations magiques, Guilvinec, tout ça, n'y sont pas non plus. Alors qu'on pourrait dire, avec le climat qui se réchauffe, la Bretagne va gagner en part de marché, on pourrait le dire comme ça. Mais pour l'instant, ça fait moins rêver que les autres stations.
Et les Bretons
donc, c'est
n'ont
quand
pas
même
envie
de touristique.
Les Bretons n'ont pas forcément envie de voir arriver tous les gens.
Oui, les Bretons sont peut-être un peu prudents dans les flux touristiques, vous avez tout à fait raison.
Et puis, il ne faut pas oublier que 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. Faire du tourisme pour une famille, ça reste cher.
Alors oui, ça reste cher. Alors il faut dire deux choses. L'été, il y a à peu près un Français sur deux qui part, et puis il y en a à peu près 10-12% qui partent à un autre moment. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les pays du Nord, par exemple, Danemark, tout ça, 80% des gens partent en vacances. Donc on pourrait se fixer ça comme objectif. Il y aura toujours 20% qui, d'abord, il y en a qui ont horreur de voyager, c'est leur droit, et puis il y a des gens, ils se sont cassés la jambe, ils ont acheté une maison, il y a toujours 20% des gens qui ne voyageront pas. Donc on n'est pas très bon à ce niveau-là. Et dans ceux qui n'y partent pas, il y a beaucoup les jeunes des quartiers, et je pense pourtant que c'est un énorme moyen d'intégration. Quand vous avez passé tout l'été, à tenir le pied d'immeuble, forcément, ça vous intègre pas. Il y a souvent les dames seules. Parce que voyager seul pour une femme, c'est pas évident dans notre société. Et puis, évidemment, les milieux les plus populaires, les ouvriers sur des salaires petits, etc. Donc, il y a encore un chemin à faire pour aller plus loin, dans la démocratisation. En même temps, la démocratisation était considérable depuis la guerre. Mais elle s'est un peu arrêtée depuis une dizaine d'années. Et je voudrais dire une chose. On est dans une époque où on ne parle que du surtourisme. Alors que le surtourisme, ce sont des lieux qui sont souvent mal gérés parce que la seule façon qui n'est pas de surtourisme, c'est de gérer les flux par le numérique, comme on le fait pour aller au Louvre, ou comme on le fait à Marseille pour aller à Sujiton. Vous inscrivez et on vous dit, monsieur ou madame, enfin cette semaine, non, ça ne va pas être possible, mais la semaine prochaine, oui. Ou au pire, on vous dit l'année prochaine. Moi,
mieux
si on propose le Louvre l'année prochaine de 10h à minuit avec pas beaucoup de monde, bah, ça vaut le coup d'attendre un an. Combien de fois dans votre vie vous allez au Louvre ? Voilà, donc il faut une politique du tourisme, mais ça reste... Vous savez, le meilleur souvenir des gens de l'année dernière, c'est toujours un souvenir de vacances.
Merci beaucoup de ce témoignage, Jean Viard, et de cette analyse. Je rappelle votre dernier livre, « Quand le tourisme s'éveillera », coécrit avec Linda Lenné, c'est paru donc aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup Jean Viard et bonne journée. Les premiers grands incendies de l'été. Dans l'Aude, l'incendie qui s'était déclaré hier sur l'A61 est fixé, mais il n'est pas encore maîtrisé. Et dans l'Hérault, en revanche, le feu est sous contrôle depuis 2h du matin. Dernière précision avec Jérôme Bonafous, il est le porte-parole des sapeurs-pompiers de l'Hérault.
Ce matin, on a refait venir de nouveau le drone à 6h30 pour refaire donc un vol et pour voir s'il y avait d'autres points chauds. On sait que cet après-midi, on a le vent qui va se renforcer. L'objectif, c'est qu'on évite toute reprise. Donc, on a toujours sur ce genre de feu des brûlots, sur la limite brûlé-non brûlé. Et donc, on s'affaire à traiter pour éviter toute reprise. On craint toujours que le feu reparte. Par contre, on se donne tous les moyens pour éviter qu'il reparte. Voilà. Ce qu'on craint aussi, c'est qu'on ait d'autres départs de feu ailleurs dans le département. C'est pour ça qu'on a recouvert, on a réorganisé un peu tout le dispositif. Mais surtout, on va préparer donc des groupes d'intervention qui seront prêts à partir si on a un autre départ de feu.
Le porte-parole des sapeurs-pompiers de l'Hérault avec Alexandra Lagarde, ici Hérault. À Paris, les trois sites de baignade ouverts sur la Seine, eh bien, ils sont déjà fermés provisoirement à cause de la pluie qui tombe sur la capitale ou qui est tombée. L'adjoint au sport à la mairie de Paris, Pierre Rabadan, avait d'ailleurs prévenu que la pluie pouvait rendre la Seine passagèrement impropre à la baignade. La paix civile en Nouvelle-Calédonie, elle se joue en ce moment dans un hôtel de métropole à Bougival, dans les Yvelines. Depuis mercredi, à l'invitation d'Emmanuel Macron, les partisans de l'indépendance et les opposants sont réunis à huis clos pour tenter de trouver un accord institutionnel un an après les émeutes sur le Caillou. Maxence Lambrec, vous suivez ce dossier calédonien et le président de la République souhaite un consensus de 15 à 20 ans de reconstruction de l'archipel avant un éventuel référendum.
Sortir du choix binaire pour ou contre l'indépendance, ce choix qui a fracturé la société calédonienne, aboutit à un vote ethnique, littéralement blanc ou noir. Et pour cela, laisser le temps cicatriser les plaies des émeutes de l'an dernier. Au moins 10 ans sans bras de fer institutionnel, puis 5 ans de dialogue pour aboutir au vote sur un projet sans doute hybride, une association, une fédération avec la France. Emmanuel Macron laisse toutes les portes ouvertes, conscient que ce n'est pas lui qui les refermera. Il s'inscrit dans ce que les modérés des deux camps souhaitent. L'Unipalika, l'éveil océanien, Calédonie ensemble. Ces mouvements arriveront-ils à calmer les ardeurs de ceux qui brandissent sans cesse leur drapeau bleu, blanc, rouge ou kanaki et qui ont déjà en tête les prochaines élections provinciales lors desquelles la radicalité sera sans doute récompensée. Élections prévues en novembre prochain, sûrement reportées au terme de ces échanges à Bougival pour élargir au moins un peu le corps électoral. Pour l'instant, rien ne filtre des échanges. Devons-nous croire le proverbe « pas de nouvelles, bonne nouvelle ».
Sa cavale aura duré plus de 2 semaines. Le détenu qui s'était évadé du centre pénitentiaire de Grenoble-Vars en Isère a été interpellé ce matin. Il avait profité d'une sortie en plein air pour s'évader.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Au Texas, les secours travaillent sans relâche pour retrouver la trentaine de fillettes et adolescentes qui ont disparu dans les inondations. Inondations qui ont fait au moins 50 morts. Le fleuve Guadalupe est monté de 8 mètres en seulement 45 minutes. Le point sur les recherches avec Loïc Piala.
Tai Badon crie le nom de sa fille le long de la rivière, avec l'espoir de l'entendre lui répondre. Joyce Catherine, 21 ans, était en week-end avec des amis, mais elle n'a plus donné de nouvelles depuis 4 heures du matin vendredi, raconte ce père de famille à CNN.
Si vous allez voir la maison où elle dormait là-bas, ce n'est pas bon signe. Mais j'espère que l'on trouvera nos enfants vivants, ma fille et ses amis. À tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, priez.
Les autorités ne peuvent pas donner de chiffres précis sur le nombre de disparus, a expliqué Dalton Rice, le manager de la municipalité de Kerrville.
Parce qu'on ne sait pas, des gens sont venus camper pour le week-end du 4 juillet, des gens campent le long de la rivière, d'autres sont juste de passage.
On sait en revanche que 27 jeunes filles de la colonie de vacances Camp Mystique sont toujours portées disparues. Beaucoup ont été sauvés, parfois évacués par hélicoptère, comme la fille de Serena, interviewée par la chaîne News Nation.
Ma fille de 9 ans a été réveillée par une amie. L'eau entrait dans leur dortoir. Les moniteurs leur ont sauvé la vie en cassant des fenêtres pour qu'elles puissent sortir par l'arrière du cabanon.
Tous les efforts se portent sur la recherche de survivants, mais un début de polémique a fait surface. Pourquoi les services météo n'ont-ils pas anticipé l'intensité des pluies de vendredi matin ? À Los Angeles, Loïc Pierre pour France Inter.
Entre Israël et le Hamas, un nouveau cycle de négociations indirectes débute aujourd'hui au Qatar. Il s'agit de trouver un accord de cessez-le-feu et une nouvelle libération d'otages à Gaza. C'est aujourd'hui l'anniversaire du Dalai Lama, 90 ans. Rob Bordeaux est toujours cette écharpe jaune. Le chef spirituel des Tibétains a prié aujourd'hui pour la paix. Prière depuis les contreforts himalayens indiens, là où il vit en exil. Le Dalai Lama a également fait part de son rêve de vivre encore 30 ou 40 ans. La deuxième étape du Tour de France, toujours dans les Hauts-de-France, entre Lovin-Planque, c'est dans le Nord, et Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, c'est d'ailleurs la plus longue étape de la boucle, un peu plus de 209 km avec 4 bosses à gravir. Le départ a été donné il y a environ une demi-heure. On retrouve Xavier Monferrand sur la Moto France Inter. Bonjour Xavier.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le ciel était annoncé menaçant, ce qui risque d'ailleurs de tendre un peu cette étape.
Oui, plus que menaçant, hein, il a tombé, vous savez, ça fait partie du patrimoine du Nord, Eric, la drache, hein, la pluie incessante depuis ce matin. Ça s'est calmé un petit peu après 17 km pour la tête de course, parce qu'ils sont 4 partis dès le début de cette étape entre Lovin-Planque et Boulogne-sur-Mer. Et parmi les 4 à l'avant qui ont 2 minutes 25 d'avance, eh bien il y a Bruno Armirail de l'équipe Décathlon AG2R qu'on avait déjà vu à l'avant hier. Il se montre, Bruno Armirail, le français, seul français d'ailleurs de ce groupe de 4, dans une étape que on nous annonçait déjà compliquée parce que très accidentée, et notamment à la fin de l'étape avec 3 montées successives, mais celle-ci avec la pluie, la drache ici, ça pourrait vraiment compliquer les choses et tendre particulièrement les choses dans le final.
La drage, donc, qui pourrait bien revenir sur cette deuxième étape. Merci Xavier Monferrand sur la moto France Inter avec Alexandre Abergel. C'était il y a quelques minutes sur TF1 dans l'émission Les 12 coups de midi chez Jean-Luc Reichmann. La fin d'une impressionnante série de victoires dans ce jeu. Victoire du candidat Émilien. Il vient d'être éliminé, plutôt élimination de ce candidat au terme de 600 participations, près de 2 ans de présence quotidienne et surtout cette Émilien est devenu multimillionnaire. Le jeune homme de 22 ans est devenu le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France. Émilien a remporté plus de 2 600 000 euros de gains cumulés.
Top ! Combien obtient-on en additionnant les deux chiffres du département de la Gironde ?
6.
Aujourd'hui, dimanche 6 juillet, Romain détrône Émilien !
L'expérience est exceptionnelle depuis 21 mois maintenant. Aucun regret, c'est jamais je m'attendais à avoir l'occasion de rester aussi longtemps. C'est juste exceptionnel pour tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, merci à tout le monde ici. Et puis que bravo à Romain et qu'il fasse le plus beau parcours possible, c'est ce que je dis. Merci.
Merci infiniment.
2 600 000 euros de gains cumulés, le plus gros gagnant de l'histoire des jeux télévisés en France. Il vient d'être éliminé sur TF1, donc c'était il y a quelques minutes. Le temps.
La météo, avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin, grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Cet après-midi, il y aura un vent d'ouest un peu partout.
Hein. Et oui, et la perturbation gagne les régions de l'Est et provoque de la pluie sur une grande moitié nord du pays, du centre-Val de Loire au bassin parisien et jusqu'au nord. De la Bretagne à la Normandie, les averses sont plus faibles et au sud, le ciel reste lumineux en général, malgré le soleil voilé, sauf du nord de l'Aquitaine au centre-est où Météo France prévoit quelques ondées. Les orages, quant à eux, font leur retour sur l'est des Pyrénées, les Alpes du Sud et la montagne Corse.
Ouais, les températures sont en très nette baisse.
Et oui, seule la Corse conserve sa vigilance orange canicule. Aujourd'hui, il y fera localement 34 à 35 degrés comme sur le Var. Plus généralement, 29 à 33 degrés sur les régions méditerranéennes. 20 à 25 sur une large moitié nord-ouest. 20 à Cherbourg, 23 à Paris, 24 à Angers comme à Tours. 25 à localement 27 sur le sud-ouest et la région Rhône-Alpes.
Les prévisions de Magali Rochereau.